Diéné Keïta, une Guinéenne, femme du monde.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
Quand en sol majeur a su qu'elle arrivait des États-Unis, porteuse du rapport annuel sur l'état de la population mondiale, RFI a dit « banco ». Même si on ne fait pas de politique par ici, on aime bien savoir qui quoi qu'est-ce, qui sont-ils, ces hommes et ces femmes, aux manettes de notre destin. J'ai retrouvé pour l'occasion la belle citation d'Abraham Lincoln. « L'homme politique, c'est celui qui pense à la prochaine élection, l'homme d'État, c'est celui qui pense aux prochaines générations. » Je pense pouvoir dire que Diéné Keïta est de cette trempe qui pense génération et non pas élection. Ministre guinéenne de la coopération et de l'intégration africaine jusqu'en 2020, actuelle sous-secrétaire générale de l'ONU et directrice exécutive adjointe du Fonds des Nations Unies pour la population, elle sillonne le monde et toque à la porte des États pour sauver quelque chose, notamment de la maternité, donc de notre humanité. Hi there, buongiorno et bonjour Diéné Keïta.
Bonjour Yasmine.
Comment est-ce qu'on dit bonjour en malinké?
Inés Roma.
Inés Roma. J'avais envie qu'on dise bonjour au monde en malinké.
Aniplé.
Et merci de prendre le temps du temps en sol majeur. Comme quoi on peut avoir de lourdes responsabilités et s'autoriser l'amour, version Bob Marley. Pourquoi ces dreadlocks sur la platine dans sol majeur, Diéné Keïta?
Ces dreadlocks parce que ça représente pour moi un monde meilleur, ça représente l'amour, ça représente la spiritualité et vraiment les lueurs d'espoir dont parle le rapport que je viens de lancer en France et donc l'optimisme.
C'est pas mal de faire un lien tout de suite entre cette chanson de Bob Marley et votre rapport. Alors on va évidemment parler de votre casquette de directrice exécutive adjointe du Fonds des Nations Unies pour la population, mais vous connaissez la maison RFI, ça commence forcément par une petite palabre musicale.
B comme berceau de l'humanité.
C'est vrai que recevoir une Keïta, ce n'est pas rien. Il faut au moins les honneurs d'un Mamadou Diabaté célébrant Soundiata Keïta, une histoire qui vous a construite, Diéné.
Absolument, qui m'a totalement construite. C'est le privilège d'être née Keïta. C'est une belle histoire.
Mm-hmm. Vous nous rappelez cette histoire?
Absolument.
Si elle nous avait échappé.
C'est l'histoire d'un jeune homme qui naît handicapé, un lourd handicap, et qui a une mère aussi qui est bossue, et qui pendant 7 ans ne marche pas, sa maman étant la risée de tous ses co-épouses, et il s'est dit, je vais me battre et je vais te ramener ces fleurs, ces fruits du grand baobab à ta porte pour que tu n'aies plus jamais à subir l'humiliation. Et donc, il s'est fait construire des béquilles en fer.
Il se met debout.
Il se met debout. Et sa force amène l'arbre jusqu'au pied de la case de sa maman.
Et il deviendra le fondateur de l'Empire.
De l'Empire du Mandingue, ou l'Empire du Mali, selon la manière dont on l'a dit.
Alors j'aime bien parce que vous, vous dites que c'est une belle histoire féminine.
Absolument.
Est-ce que c'est une histoire féministe? Vous iriez jusqu'à dire ça?
En tout cas, c'est l'amour d'un fils pour sa maman. Il va s'occuper d'elle. Et même plus tard, quand il construit l'Empire, il ne sait pas où sa mère est enterrée. Et il va jusque dans les pays morts pour chercher. Et il reconnaît les communautés mandingues avec les feuilles de baobab qu'il trouve. Et il leur dit, vous avez deux choix. Ou vous me rendez la dépouille de ma mère, ou je détruis votre région. Et il a commencé à bâtir son empire. Et son empire se finit quand il n'y a plus de famine sur le territoire.
Je ne sais pas si elle vous inspire, hein, cette histoire. Dans
absolument.
Votre... Oui,
absolument, elle m'inspire. Notre nom, Keïta, d'abord veut dire, prends ce qui t'appartient. Et ça, on nous a appris le travail, le laboureur et ses enfants. Mm-hmm. Ce n'est pas gagné d'avance. Et évidemment, en venant du pays de l'enfant noir, Kouroussa.
Kamaralaï.
Kamaralaï, exactement. À côté des rives du Niger, c'est une valeur importante pour nous.
On y reviendra peut-être.
Très bien.
Puisqu'on évoque une seconde l'Empire, un ancien empire, est-ce qu'on peut évoquer une seconde en sol majeur, la colonisation telle qu'elle a été vécue dans votre famille? Qu'est-ce que vous savez?
Oui, dans ma famille, je le prends comme un bienfait. Quand ils m'y prennent pas.
La colonisation
pas. Quand ils ne méprennent pas, mes ancêtres ont eu leur lot de traumas quand ils ne payaient pas les cotisations de l'impôt, on les humiliait sur place publique, etc. Mais la partie qui m'intéresse, c'est quand le colon est venu dans la famille paternelle demander de mettre les enfants à l'école. Il dit parce que sinon, nous, on va créer des écoles et si vos princes, soi-disant, ne sont pas à l'école, dans quelques temps, ils ne seront plus si princiers que ça. Et tout le monde a caché les enfants, évidemment. L'école du blanc, pas question.
Disons, l'aristocratie a caché les enfants.
L'aristocratie a caché les enfants.
Les domestiques ont livré leurs enfants, en revanche.
Exactement.
Ça a donné des petits, si j'ose dire ensuite.
Hein. Exactement.
C'est une autre histoire.
Et c'est une autre histoire. Et donc, une de mes arrière-grand-mères a dit, tiens, je te donne mon fils et donne-le au blanc. Comme ça, moi, tu n'auras pas honte vu ta position sociale. Et là, il a fait des bénédictions pour cette femme-là et toute sa descendance. Probablement, on en bénéficie tous aujourd'hui.
Ça nous rappelle l'aventure ambiguë de Chérie Milochan. Hein.
Absolument.
On évoquait à l'instant l'épopée de Sundiata Keïta, mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans le couffin culturel, je dirais, de la jeune Diané Keïta?
Moi, j'ai un père qui est donc guinéen, mais j'ai une mère qui est sénégalo-malienne. Donc, je suis une pure ouest-africaine, si je peux le dire. Donc, dans mon couffin de naissance, il y a ce mélange de cultures. Née d'une famille s'appelant Keïta, et née d'une maman s'appelant Gay, ayant grandi au Mali pour la plupart. Et ça donne une culture qui est balancée.
Vous avez une drôle de phrase, vous dites, parce que ça ne se limite pas à ça, hein, votre champ culturel, votre monde culturel. Grâce aux Dominicaines, je suis devenue une bonne musulmane.
Tout à fait. J'ai fait environ 8 ans dans des écoles de sœurs, dominicaines pour la plupart et une partie en Italie. Et le respect dû à ma culture musulmane, le respect dû à ma religion musulmane m'a marqué fortement. J'ai commencé mes premiers cours de langue arabe en Italie et je suis restée amie sur Facebook avec la mère supérieure jusqu'à son décès.
C'est très joli.
Et je suis encore amie avec. Ouais. Et c'est une réalité. Ce mélange de culture judéo-chrétien et islam, ce sont les trois religions révélées, on a beau dire. Je me sens bien dedans, je me sens bien et je me considère comme une très bonne musulmane.
Et donc du coup, vous pouvez passer de la Fatiha au Notre Père.
Ah, sans problème.
Est-ce que c'est un plus? En quoi c'est un plus?
C'est un plus parce qu'on apprend à prier avec ce que l'on a. Dans combien d'hôtels j'ai été de par le monde, il n'y a qu'une Bible dans la table de nuit. Eh bien, je lis ça quand j'ai ça à portée de main, c'est un livre saint. Mais en grandissant, en améliorant et en ma culture musulmane, ça m'apaise. Ça me permet vraiment de calmer toute la lionne en moi. Je suis née du mois d'août et tout le dragon en moi, je suis de l'année du dragon aussi. Mmh. Et ça me fait beaucoup de bien à penser au prochain. La spiritualité est très importante pour moi. De la vivre à ma façon. Personne ne m'obligera à me couvrir de pied en cap contre mon gré.
Et le fait de connaître le catholicisme, c'est aussi être dans l'altérité.
Absolument.
Mais vous connaissez aussi, Diéné, la mélodie du bonheur.
Oui, absolument, c'est vrai.
La comédie musicale américaine des années 50, 60.
Ouais. Probablement.
Qu'est-ce que c'est la mélodie du bonheur pour les jeunes générations là?
Oui, la mélodie du bonheur, c'est cette histoire d'un capitaine autrichien qu'on veut embarquer dans l'armée nazie qui se créait et qui n'avait pas l'intention d'y aller. Uh-huh. Et il rencontre cette jeune aspirante novice nonne qui change sa vie par la musique. Et c'est joyeux, c'est beau, c'est résilient.
Et vous connaissez la mélodie?
Je connais la mélodie.
Allons-y.
Si tu vuoi cantar così, usa queste note qui.
Ah oui, vous la connaissez en italien, ça. Incroyable. Donc vous êtes rapidement dit comme ça à la croisée des mondes et à la croisée des cultures entre l'Europe, l'Afrique, les États-Unis. De quelle manière chacune de ces cultures continue de vous forger, de vous tenir, de vous guider?
Elle me forge toute, elle me complète. J'ai connu l'Afrique grâce à mon travail, en fait. Mon travail m'a ramenée en Afrique. Je me suis trouvée chez moi quand j'étais en Haïti, avec toute leur complexité, tous ces mélanges-là. J'ai adoré ça, où il n'y avait pas de stigma particulier, du compas créole en étant ce que j'étais. Et l'Europe, c'est tout ce que je connais. J'ai étudié en France, j'ai grandi là, j'ai commencé en Belgique au Sartellement. Mais les yeux fermés, je suis à Paris.
Mais est-ce que vous résumeriez l'Europe à la rationalité?
Je résumerais l'Europe à la rationalité et probablement aussi le sens du devoir. Parce qu'on était en Italie par un choix de mon père, qui pensait que l'italien, avec sa culture et son histoire, nous apporterait et qu'on aurait toujours l'occasion de parler anglais. Mais parce qu'à ce moment-là, mon pays n'avait plus de relation avec la France. Et grâce à son ami Levin et lui, ils ont rétabli cette relation. Donc le côté rationnel, le côté justice, le côté...
Diplomatie.
Oui, et le côté monde balancé. On ne se coupe pas d'un bras parce qu'on n'est pas content du bras. Le bras, on vient avec, on reste avec. Je veux dire, la France fait partie de notre histoire passée, de notre présent, et fera partie de notre futur. Les termes peuvent être revus, mais je pense qu'il faut avoir une balance dans la vie.
Donc l'Afrique, vous l'avez découverte plutôt grâce au travail.
Absolument.
La rationalité. La France, que vous apportent les États-Unis? Quelle assise?
Les États-Unis m'apportent la rapidité, l'efficacité. Je pense que c'est cette combinaison que j'aime faire.
Le yes we can.
The yes we can, absolument. Et la transparence dans la gestion des ressources. Mon travail en tant que chef de programme, c'est de gérer des programmes. Mais les programmes, c'est beaucoup, beaucoup d'argent public. Et ça, l'Amérique m'apporte ça. Dire, on va utiliser tant de montants pour sauver tant de vies. C'est pour ça que quand je suis devenue ministre, cela m'a facilité ou rendu la tâche difficile. Parce qu'il fallait garder cette rationalité et cette efficience dans le travail.
Vous qui êtes une immense alliée, on va dire, de la cause féminine, Diéné Keïta, évidemment, on aimerait savoir dans quel gynécée vous avez grandi. Peut-être un mot d'une certaine Ramata.
Ramata Gay. Cette dame a fait notre vie, moi et mes 7 frères et sœurs. Nous sommes 4 filles, 4 garçons. Et elle a perdu son mari qui a été tué à l'âge de 40 ans. C'est après que j'ai réalisé combien c'était jeune.
C'était donc votre mère?
C'était ma mère. Ramata, c'est ma mère. Et c'est une dame qui va sur YouTube pour chercher les émissions qui l'intéressent. Et qui a une main de fer, d'une douceur exceptionnelle. Mais probablement la plus grande personne politique que je connaisse.
C'est-à-dire?
Tous les grands conseils qui m'ont été donnés, chaque fois que je me suis retrouvée en Haïti devant un problème particulier à gérer avec un gouvernement ou au Burundi, c'est ma première conseillère. Son bon sens est à nul autre pareil. C'est une dame qui ne parle pas beaucoup. C'est une dame de peu de mots. Mais quand elle ouvre sa bouche, en général, ça vous marque pour l'éternité.
C'est une grande diplomate.
C'est une très grande diplomate.
Est-ce que, gamine, vous rêviez de sortir du rang, de renverser la table, de faire la révolution, comme on dit?
Oui, toujours d'ailleurs. Et la première révolution que j'ai voulu faire, c'était, je me rappelle, à Paris, mon père qui... J'ai dit, tiens, quand je serai grande, je vais fumer. J'avais 13 ans. Il dit, mais qu'à cela ne tienne, prends la cigarette. Pourquoi tu vas attendre d'être grande? Il a réussi à tuer ça en mort. La rébellion s'est arrêtée là. Donc, quand on me dit non, je vais aller de l'avant jusqu'à présent, jusqu'à mon grand âge avancé aujourd'hui.
Donc, il faut vous dire non.
Oui, mais quand on me dit non, on me trouve. C'est ça le problème. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin de la religion, de la spiritualité pour m'apaiser. Combien de fois mon fils m'a donné mes chaussures en arrivant à la maison, il me dit, maman, on va faire du sport, parce que franchement, ta tête, ça va pas. Il faut pas que ça arrive à la maison, cette affaire-là. Donc, j'aime le non, parce que j'essaie de trouver le oui qui va avec.
Avec près de 3 heures de retard, Nelson Mandela apparaît enfin au balcon de l'hôtel de ville du Cap. L'impatience est à son comble pour les milliers de sympathisants de l'ANC qui s'entassent sur la place. Des troubles viennent d'éclater alentour, faisant un mort et plusieurs blessés. Camarades, amis sud-africains, je vous salue tous au nom de la paix, de la démocratie et de la liberté pour tous.
Democracy and freedom for all.
Je me tiens ici devant vous, non pas en tant que prophète, mais en tant qu'humble serviteur de vous, le peuple.
But as a humble servant of you, the people.
Ce 11 février 1990, dans votre ensemble majeur, Djéné Keïta. Donc, c'est une date qui est marquée au fer rouge, hein, on peut dire dans la mémoire du monde. Et bien sûr, dans votre mémoire à vous, qu'est-ce que vous faites ce jour-là?
Ce jour-là, je suis assise dans ma petite chambre de Bonne, dans le 11e. J'écoute
ça. À Paris, donc?
À Paris. Je mets ma tête à ma petite fenêtre et je vois le Monoprix. Je descends et je m'achète pour la première fois de ma vie un produit sud-africain. J'arrête mon boycott personnel.
Ah.
Et c'est tout le combat de ma vie. Je dis toujours, chacun peut mener ses petites batailles à son petit niveau. En tant qu'étudiante, est-ce que j'avais le moyen de m'acheter? J'ai acheté mon litre de jus, je peux boire à la santé de Mandela et de toutes les personnes qui sont emprisonnées. Ça a été ma petite célébration ce jour-là.
Mais dans le temps, est-ce que vous diriez que votre engagement militant et politique, vous le devez à cette figure, notamment?
Je le dois à différentes figures. Je dois définitivement à Mandela, parce que j'ai apprécié ce qu'il a représenté. Après sa libération, sa capacité à ne pas vouloir de vengeance, à vouloir calmer la planète, ça pour moi, c'est le rôle que nous devons tous jouer, spécialement dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Je pense que toutes les personnes qui peuvent contribuer à ne pas allumer le feu, c'est important, à part sur une piste de danse bien sûr. Je me souviens aussi mon père, j'étais petite, très petite, à Conakry, qui est venu nous prendre à la maison, c'était chez mon oncle. Il y avait des gens pendus sur le pont du 28 novembre, je crois, à Conakry. Il dit « ça, ce pays le paiera pour l'éternité ». J'ai cette image qui reste là. Il y avait des gens pendus sur le pont dans mon pays.
On est dans la Guinée de Sékou Touré.
On est dans la Guinée de Sékou Touré. Et ça, c'est une image difficile à porter. C'est, comment dire, c'est l'héritage de mon histoire, c'est mon pays, c'est ma nation. Et il faut qu'on passe ça. C'est pour ça que quand j'étais ministre aussi, je pense que j'étais l'une des ministres les plus appréciées de l'opposition d'ailleurs. Parce que je refuse de rentrer dans l'ethnocentrisme et ni dans le racisme. Parce que dans le métier dans lequel je suis, la diversité est la clé première.
Votre doctorat en droit en poche, un DEA en économie internationale, un DESS en relations internationales, obtenu à la Sorbonne à Paris. Votre carrière, Djéné Keïta, semble guidée par l'attrait des droits humains. D'ailleurs, l'histoire entre vous et les Nations Unies est assez longue, hein, dès 1990. Et même lorsque vous rejoignez le gouvernement guinéen sous Alpha Condé, vous le faites au service des programmes de santé publique. Aujourd'hui, quand Sol Majeur reçoit la sous-secrétaire générale de l'ONU et directrice exécutive adjointe du Fonds des Nations Unies pour la population, dont on va parler, quelle est votre humeur aujourd'hui? Quel est votre état d'esprit au moment de cette rencontre?
Beaucoup de fierté. Tous les jours, je remercie le bon Dieu. Vous savez, sous-secrétaire général des Nations Unies, on n'est pas si nombreux que ça. Avoir un secrétaire général comme Antonio Guterres et une secrétaire générale, vice-secrétaire générale Amina Mohamed, qui ouvre la porte à d'autres, à une population plus diverse, et ma propre directrice exécutive qui décide, je veux une Africaine. J'ai passé tous les tests et tous les concours et toutes les interviews. Mais elle avait le choix, elle avait le monde pour elle. Mais décider en tant qu'afro-descendante du Panama, je vais prendre une Africaine pour montrer qu'on peut être en leadership de femmes noires et réussir dans un des domaines les plus difficiles. Je suis infiniment reconnaissante à la Providence, au bon Dieu.
À votre travail, à votre compétence.
Certainement, mais ma compétence, j'essaie de la prouver tous les jours en essayant d'aider mon prochain. La jeune génération est absolument essentielle pour moi. Les jeunes, c'est vraiment, vraiment la priorité. Et parce que les jeunes, il y a les femmes et les garçons. Et les femmes et les garçons aussi dedans. Mm-hmm. Les garçons sont importants dans l'affaire.
Pour faire avec. Alors, je recommande le site de ce Fonds des Nations Unies pour la Population qui est appelé... Parce que j'ai du mal hein, avec ce titre, dites-moi tout.
UNFPA,
voilà.
Le FUNUAP en français.
FUNUAP, donc l'agence en charge des questions de santé sexuelle et reproductive. Je trouve que ce site est très bien fait. La preuve avec ton corps t'appartient, même en ligne. C'est une performance hein, qui commence par ces mots. As-tu déjà vu ton portable cracher la foudre?
Ever had your phone shoot lightning? An attack with no sound? When someone comes for you online, your image tapped, shared and multiplied, it's public. But only you feel it spear through your thoughts. Until your body isn't yours. Until you can't work the same. Can't concentrate. Can't clean shame off the smiles you wear, pretending none of it struck you. And from a cyberstorm, you ask for help. To delete the comments and take the pictures down. But you're met with slow systems and silence. Gee. If you turned your trauma into a song for copyright, it would have more protection than a woman online. Can't we do better than these shoddy rights? Give our image and our bodies rights. Real repercussions when lightning strikes. Abuse won't end on its own. We have to fight.
G comme genre humain.
Avec cette performance de Rokhaya Fetouga, c'est une poétesse originaire de Londres, d'origine ghanéenne et nigériane, qui se conclut par ces mots « La violence ne s'arrête pas seule ». De quoi s'agit-il exactement, Jenny Keita?
Un de nos mandats, c'est d'éliminer la violence sous toutes ses formes. Et l'une des violences dont elle a fait mention ici pour commencer, ce qu'on appelle « Tech Facilitated GBV ». C'est-à-dire tout ce qui est la violence sur les réseaux sociaux,
digital.
En ligne, digital. Et pour nous, l'autonomie corporelle est la première des choses. Ça ne sert à rien d'avoir l'autonomie économique, etc., etc., si tu ne te sens pas bien dans ta peau, si tu n'as pas la possibilité de poser les vraies questions aux bonnes personnes au bon moment. Et aussi, qu'on te permette de vivre ta vie à l'école sans que tu ne sois mariée trop jeune, et pire, d'avoir des grossesses précoces. Ça, c'est un drame. J'ai appris la fistule en travaillant au Fonds des Nations Unies pour la population. Et ça, c'est la plus grosse violence pour moi qui existe sur cette planète.
Le corps des femmes, notamment, les droits humains donc sont au cœur de votre démarche. J'ai feuilleté le site du FENUAP. J'ai relevé comme ça trois articles, hein, juste pour qu'on estime un petit peu l'ampleur de votre mandat. Je vous donne le titre et vous pourrez nous en dire un mot, Jenny. À Djibouti, les femmes leaders prennent position contre la violence basé sur le genre et les pratiques néfastes.
Djibouti, c'est-à-dire toutes les pratiques néfastes, il y a énormément d'infibulation et de mutilation génitale féminine. Et on essaie de travailler avec les femmes pour motiver à ce qu'elles arrêtent. Parce que ces pratiques traditionnelles, même si elles sont faites par des médecins, complices parfois, mais sont quand même initiées dans ces régions-là par les femmes.
Mais là, vous vous heurtez à la tradition.
On se heurte à la tradition, c'est pour ça qu'on travaille énormément avec les chefs traditionnels et les leaders religieux, pour faire comprendre que la religion n'a rien à voir avec ça, et que c'est plutôt culturel, plutôt lié à la région où ça se passe, et donc pour essayer de changer ces mentalités-là.
Donc il faut une pénétration dans les us et coutumes.
Complètement. Nos équipes sont composées de personnes de très haut niveau, on a des équipes très très scientifiques en fait, qui sont spécialistes ou en religion, ou en santé sexuelle et reproductive, ou alors en données de population aussi, pour nous assurer qu'on a les bonnes cibles en face de nous. Et on travaille avec les femmes de toute génération, et les leaders, qu'elles soient femmes ou hommes, pour nous assurer qu'on parle le même langage.
C'est un travail collectif.
Absolument.
Autre titre, un parcours héroïque, comment le FENUAP aide les mères de Madagascar à bénéficier de soins obstétricaux d'urgence.
Les soins obstétricaux d'urgence, dans beaucoup, beaucoup de pays, en Afrique subsaharienne notamment, mais en Asie aussi, les femmes ne bénéficient pas des simples soins, des visites prénatales par exemple, parce qu'elles sont trop loin de ça ou c'est trop cher. Donc ce que nous faisons, c'est de mettre en place des systèmes comme des forfaits obstétricaux pour qu'elles puissent avoir accès au moins à la sage-femme pour pouvoir faire le minimum de suivi nécessaire.
De façon régulière.
De façon régulière. Et on a cela à Madagascar, mais on a ça dans d'autres pays aussi.
Autre titre, en première ligne des crises climatiques, toujours soutenues par votre agence, des sages-femmes évitent le décès maternel chez les réfugiées camerounaises au Tchad.
les sages-femmes. On est dans la période de célébration de la sage-femme au niveau mondial, au Cameroun, effectivement, au Tchad. Effectivement, nous utilisons des sages-femmes pour compléter celles que nous avons. Nous essayons aussi de faire ce qu'on appelle des échanges, quand on peut, dans les pays limitrophes, là où il y a la compétence et la qualité. Et le Tchad, c'est vrai qu'en centre maternel et néonatal, ils sont un peu en retard, on a beaucoup de travail à faire et beaucoup de formation, ce qu'on a commencé à faire.
Beaucoup de difficultés, car vous vous heurtez à des réalités comme travailler dans des camps de réfugiés.
Absolument. On travaille dans les camps des réfugiés, on travaille dans
des contextes de guerre.
Des contextes de guerre tout le temps. Que l'on travaille en Ukraine, à Gaza ou en Afghanistan. En Afghanistan, par exemple, on a des sages-femmes et on a des ambulances. On les fait partir dans des ambulances, dans des régions, à Kandahar ou à d'autres. Et elles ont pour rôle non seulement de donner des soins, mais aussi de former certaines femmes locales pour le cas où elles ne pourraient pas revenir dans cette région du fait de guerre. Soit on a ce double rôle de nous assurer de laisser un minimum de savoir-faire derrière pour le cas où la guerre nous empêcherait de revenir.
Donc travail collectif et travail
Absolument.
De transmission.
De transmission.
Jusque dans les années 90, on peut dire qu'on était dans un système de valeurs qui préconisait que la seule fonction des femmes était la reproduction. Et depuis la conférence internationale sur la population et le développement qui a été organisée au Caire en 94, là on est en train de fêter le 30e anniversaire cette année, qu'est-ce qui a fondamentalement changé ?
Beaucoup de choses ont changé. Si on doit faire un rapport positif, la mortalité maternelle a baissé. Bien sûr, il y a plus de méthodes de planification familiale qui ont lieu. Évidemment, les données de population sont un peu plus désagrégées. Donc, on a plus d'informations. C'est comme ça qu'on voit plus facilement les violences qui sont faites. Mais ce n'est pas égal. Ce n'est pas égal, malheureusement. Le monde ne vit pas au même rythme. Si la France a inscrit l'avortement dans sa constitution, après une politique féministe étrangère, d'autres pays en sont encore à marier des petites filles. Et ces petites filles-là sont à mourir en essayant de donner la vie.
Ça, c'est un de vos chevaux de bataille.
Hein. Ah oui, je ne comprends pas qu'on puisse marier les filles trop jeunes. Et je ne comprends pas, en plus, qu'on puisse les mettre enceintes trop jeunes.
Quelles sont les régions touchées par ce...
Le mariage précoce touche l'Afrique et l'Asie. Les grossesses précoces touchent l'Amérique latine, l'Afrique et l'Asie. Parce que je vais détacher la grossesse précoce qui peut être au sein du mariage ou en dehors du mariage. Et dans le cas d'espèce à Panama, nous avions fait une étude absolument extraordinaire où on présentait au gouvernement, regardez, les coûts de ces grossesses précoces-là vous coûtent économiquement le prix d'un passage entier de conteneurs sur le canal de Panama. C'est beaucoup de millions de dollars. On travaille très très bien ensemble aujourd'hui et ça a diminué.
Donc il y a eu des avancées depuis cette première conférence en 1994, mais beaucoup reste à faire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dans 69 pays, une femme sur quatre n'est pas en mesure de prendre des décisions concernant sa santé. Une femme sur 10 n'a pas son mot à dire en matière de contraception. Entre 2016 et 2020, le taux annuel de réduction des décès maternels était de 0. Les grands laissés pour compte.
Les grands laissés pour compte sont les populations les plus reculées dans les villages les plus lointains. Et ça, c'est valable dans tous les pays de la planète. Que l'on soit en France ou aux États-Unis, il y en a partout. Évidemment, dans les pays en développement, cela est plus visible. C'est pour ça que les données sont importantes pour nous assurer de savoir où sont les populations qui en ont besoin. Imaginez le Brésil qui est très avancé en matière de données de population. Cette année est la première fois que dans leur recensement général, ils ont pu détecter une population, les quilombos, afrodescendantes, qui n'avaient jamais été recensées à ce jour. Aujourd'hui, on peut voir les réalités. Il y a plus de mauvaises choses qu'on remarque grâce aux données.
Les grands laissés pour compte sont aussi toutes les personnes qui vivent une intersectionnalité, comme les homosexuels qui vivent dans un camp de réfugiés, par exemple, comme les domestiques sans papier, comme les jeunes filles déscolarisées et handicapées.
C'est tellement vrai ce que vous dites. Vous savez, quand vous avez vu un jeune homme de 35 ans qui a été violé, vous regardez ses yeux, vous pleurez à sa place. Quand vous ne voyez plus la vie dans des yeux qui sont magnifiques par ailleurs, vous voyez le désespoir. J'ai vu ça dans un camp de réfugiés, c'est un drame. L'intersectionnalité, les questions LGBTQI+, comme on dit, c'est un problème. Les personnes vivant avec handicap. Alors quand je dis que les femmes dans les villages souffrent, mais les femmes avec handicap souffrent beaucoup plus que tout ce qu'on peut imaginer parfois. C'est pour ça qu'on dit ne laissez personne pour compte. parce que chaque personne compte.
Vous dépendez de la bonne volonté de qui pour résoudre autant de problématiques lourdes, Djiné Keïta ?
Alors, une phrase très politique, des États membres de l'Organisation des Nations Unies. Le Fonds des Nations Unies pour la population ne reçoit que des contributions volontaires. Donc pour cela, on dépend de la bonne volonté de tous les États membres. Et je suis aujourd'hui à Paris. La France est le troisième contributeur mondial pour les questions de planning familial et les produits de la santé et de la reproduction. Mmh. Et certains pays qu'on appelle nos donateurs nous donnent beaucoup, beaucoup d'argent. D'autres, comme les pays qui reçoivent l'aide, doivent donner aussi. Ils sont libres de donner le montant qu'ils veulent, mmh. mais on leur recommande de donner plus qu'ils ne peuvent.
Et parmi les États membres, il y a évidemment des États qui sont conservateurs. C'est peut-être la grande difficulté dans votre combat. Comment vous vous heurtez à des esprits conservateurs ? Qui sont-ils d'ailleurs, ces esprits conservateurs ? On a peut-être des préjugés sur leur identité.
Mais écoutez, c'est une bonne question parce que les esprits conservateurs viennent pour des raisons différentes d'agenda. Certains pays peuvent le faire à cause de l'intersectionnalité. Pour les questions de transformation du genre, je prendrais des pays comme le Cameroun, par exemple, comme l'Iran. Je sais que la Russie a une partie aussi qu'on pourrait prendre en considération. Mm-hmm. Pour la question même de planification familiale, la plupart des pays qui mettent la religion en avant, en estimant que c'est aux familles de décider, et non pas à la jeune fille de décider d'être mm-hmm. propriétaire de son corps. Mm-hmm. Donc ça vient un peu de partout, et c'est ça qui fait la difficulté de notre mandat. Je me souviens avoir parlé à deux États membres au mois de Ramadan qui viennent passer et qui disent vraiment, vous avez un mandat qui est difficile, madame la sous-secrétaire générale. Je dis, mesdames et messieurs, c'est vous qui nous avez donné ce mandat en tant qu'État membre. Moi, je ne suis qu'une fonctionnaire de l'ONU. Et vous m'obligez en plein Ramadan de parler de choses liées au sexe tous les jours et ce n'est pas sexy du tout.
C'est votre formule et elle est tellement vraie. Et
je me rappelle, ils ont souri, genre, aidez-moi à remplir mon travail.
Alors, sur le site de votre agence, il y a un clip intitulé « La population mondiale a franchi la barre des 8 milliards d'individus. Sommes-nous trop nombreux ?» Ça donne ça.
In 2022, the global population reached 8 billion. Because people are living longer, healthier lives.
En 2022, la population mondiale a atteint 8 milliards d'individus. Et pour cause, nous vivons plus longtemps et en meilleure santé. Pourtant, de nombreux discours alarmistes pointent du doigt les taux de fécondité.
Yet alarmist rhetoric is circulating, often blaming fertility rates.
Poor people have too many children. Certain ethnicities have too many children.
Un faible taux de fécondité signifie qu'il n'y aura pas de renouvellement de la population.
Es necesario considerar limitar el número de niños.
Are there too many people? Too few? These are the wrong questions. Instead, we should ask whether women are able to make their own reproductive choices.
Les êtres humains sont-ils trop nombreux? Pas assez nombreux? Ces questions passent à côté des vrais problèmes. Nous devrions plutôt nous demander si les femmes sont en mesure de faire leurs propres choix en matière de reproduction.
The answer, often, is no. 44% of women can't make choices about their reproductive health, contraception, and whether to have sex.
Bien souvent, la réponse est non. Elles sont 44% à ne pas pouvoir prendre leurs propres décisions en matière de santé reproductive, de contraception et de sexualité.
Como mujer, me dijeron que no era natural para mí no querer tener hijos.
Due to very low fertility rates in my country, contraception is provided in a very negative manner.
Une femme doit souvent changer de trajectoire professionnelle lorsqu'elle veut un enfant.
Yo lloré por años.
Women are not machines for reproduction. Every person should be empowered to create the family and future of their choosing.
Elles sont 44% à ne pas pouvoir prendre leurs propres décisions en matière de santé reproductive, de contraception et de sexualité. Les femmes ne sont pas des machines à procréer. Chaque individu doit être en mesure d'avoir la famille et l'avenir qu'il désire.
Toute personne a le droit de choisir de se marier ou d'avoir un enfant.
8 billion people can be equivalent to 8 billion opportunities.
Voilà, les voix du monde, hein, c'est le slogan de RFI, ça pourrait être celui du FENUAP. On vient d'entendre à l'instant passer comme une idée reçue, les pauvres et certains groupes ethniques ont trop d'enfants. Les êtres humains sur notre planète sont-ils trop nombreux? Apparemment, c'est la mauvaise question, il faut démystifier ce fameux 8 milliards. Alors, je ne sais pas quelle est la bonne question, Daniel Keïta, mais quel est le message réel de ce clip?
Yasmine, ce message est extrêmement important. Quand on passe la barre des 8 milliards, c'est l'histoire du verre à demi-plein ou du verre à demi-vide. Pour nous, au Fonds des Nations Unies pour la population, c'est le verre à demi-plein. Il y a avec chaque être humain des possibilités infinies de vie future qui peut impacter sur le reste de la planète. Dire qu'on est trop nombreux, on n'est pas trop nombreux, la question n'est pas là. La question est dans le contexte de chaque pays, de savoir comment adapter les politiques de développement liées à la réalité du pays. Aujourd'hui, le pays qui est en dessous du niveau de reproduction est la Corée du Sud. Ils ont moins de 0,0. Mm-hmm. Et les jeunes ne veulent pas faire d'enfants. Ils disent non, même si on a la sécurité sociale, ce n'est pas assez pour nous. Vous voyez, donc la question dans un pays comme ça, comment est-ce qu'on peut prévoir de vieillir en santé et en capacité pour continuer un peu plus longtemps ? Puisqu'il y a moins de jeunes, et comment convaincre le jeune aussi que le monde n'est pas si pessimiste et qu'ils ont un avenir, qu'il faut mieux d'y contribuer aussi en ayant un peu plus d'enfants.
Alors sur cette question des droits humains et de l'autonomisation du corps des femmes, on n'a pas encore prononcé un mot dans votre ensemble majeur, Diane, c'est MeToo. Est-ce que ce mouvement MeToo qui est apparu en 2017, est-ce que vous diriez qu'il peut faire avancer la cause des femmes noires sur la question du harcèlement et des violences et des abus sexuels?
MeToo, oui, ça peut évidemment influencer positivement la cause des femmes noires, mais ça a influencé la cause des femmes tout court. Tout court. Et c'est cette cause tout court qui va influencer tout le reste du monde. Mmh. Et donc les femmes commencent à s'exprimer, même quelques femmes noires commencent à s'exprimer. Plutôt la génération jeune d'ailleurs, parce que la question générationnelle est très très importante dans la question aussi, en celles qui acceptent leur vie telle que c'est, dit, bon, il n'y aura pas de changement pour moi, ou celles qui se disent on peut changer le monde. Et le travail, parmi ce que nous on fait à UNFPA aussi, au Fonds des Nations Unies pour la population, c'est cela, donner cet espoir-là, quelle que soit la génération avec laquelle nous travaillons. Et pour rappeler à tout le monde que la santé sexuelle et reproductive, si elle n'existe pas, il n'y aura pas d'atteinte des objectifs de développement durable nulle part. Ça commence par l'être humain. Si les gens n'ont pas compris que si on ne mange pas, on ne boit pas, on ne va pas aux toilettes, on ne se lave pas, on a un problème technique. Ça commence par l'être humain. Avec le changement climatique, tout ce qui se passe, vous savez quand vous êtes à Fidji, qu'il y a l'eau qui est en train de monter, ou à Kiribati, l'eau est en train de monter, vous devez accoucher, vous ne savez pas comment arriver, mais c'est un drame. Et notre travail, c'est de joindre toutes ces femmes-là dans des conditions parfois extraordinaires, juste pour sauver leur vie, mais aussi leur apprendre à comment devenir résilientes dans leur propre environnement.
Y a-t-il un proverbe ou une devise qui gouverne votre existence?
Jenny Keïta, un beau proverbe malinqué, moi je dirais pas non. Hein.
Un beau proverbe malinqué. Le proverbe qui me gouverne probablement le plus, c'est un proverbe qui regarde vers le futur et qui dit « L'on gagna gagna, l'on s'ébalité ». Quelle que soit la durée du futur, le futur arrive et donc il doit se préparer.
Je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais j'ai l'impression que vous êtes un peu la championne du grand écart. Parce que si on regarde votre vie, Jenny Keïta, en Europe, qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes une femme noire dans un monde blanc. Et puis dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, vous êtes une femme au milieu d'hommes qui aimeraient bien peut-être continuer à rester entre hommes. C'est, j'imagine une sacrée gymnastique. Quelle est votre arme?
En tout cas, j'ai fait de la danse classique pendant très longtemps.
J'ai même fait du karaté aussi, mais j'étais moyenne dans les deux.
C'est bien, c'est un mélange des deux qui peut être utile, je pense.
J'ai fait du karaté en Haïti et la danse classique à Rome. Je pense que c'est la capacité à montrer le chemin. Mon but essentiel, c'est véritablement d'être un modèle pour les jeunes générations et pour mes sœurs, quelle que soit leur race. Je n'arrive pas à voir la race. J'ai un problème peut-être
de vous. Le problème, c'est celui qui la voit.
Exactement.
Et vous avez affaire avec celui-là.
Et j'ai affaire avec celui-là. Mais quand j'ai affaire avec celui-là, la chance qu'il a, c'est que je le prends, je l'ingère et je le ressors différemment. Je suis fille de diplomate, j'ai grandi dedans, je suis fille de grande famille, je suis l'aînée. Vous savez, comme on dit souvent, l'aînée, tu laisses tomber pour les enfants, ne te bats pas avec les plus jeunes, ils ont raison. Donc, j'ai appris à accepter. Vous voyez, et je pense que j'ai été élevée comme ça. Les Nations Unies aussi ont réussi à me former comme ça. Je suis arrivée aux Nations Unies, j'avais 25 ans, sur concours. Donc, vraiment, j'ai eu de très, très, très bons superviseurs et j'ai appris beaucoup. Quand je suis blessée, vraiment, c'est mon ego. Et j'ai beaucoup d'ego. Je suis lion, je vous l'ai dit, et dragon, c'est beaucoup pour une seule personne.
Ascendant quoi?
Non, bois. Je suis dragon de bois. Donc, je suis calme.
Oui, mais vous êtes pour la paix profondément.
Je suis pour la paix. Je voudrais voir les gens s'entendre. Je voudrais voir les jeunes d'aujourd'hui, au lieu que les universités, je défends tel côté ou tel côté, se mettre ensemble. Comment est-ce qu'on peut faire pour arrêter cela? C'est ma question que je voudrais que tous les jeunes se posent. Comment peut-on faire pour arrêter cela?
On écoutait Bob Marley au début de votre en sol majeur, donc sur votre demande, il y a une petite lichette du Bob Marley africain. Vous connaissez les paroles par cœur, j'imagine, Diné Keïta, d'Alpha Blondie.
Absolument.
Qu'est-ce qui vous ravit dans ce morceau?
Ce morceau commence et dit « il n'y a plus d'argent, il y a la pauvreté partout ». Et entendons-nous, chers frères et sœurs, concitoyens, entendons-nous ne pas confondre multipartisme et tribalisme. Et en Afrique, c'est tellement fréquent ça. Mmh. Comme je dis, l'Afrique, je l'ai au fond de moi, au fond de mon cœur, partout. Mais vraiment l'Afrique du Nord au Sud. Et ça, je n'aime pas cette partie-là.
Ça, ça décrit l'Afrique qui vous perturbe.
Ça, c'est l'Afrique qui me perturbe. Et l'Afrique qui ne réussit pas à pardonner. L'Afrique qui ne réussit, qui est toujours en vengeresse.
Vous pensez à quoi, quand vous parlez de pardon?
Je pense à la colonisation. Je pense aux différents régimes politiques. Je vois une Afrique qui se présente comme, voilà ce que nous voulons, voilà ce à quoi nous contribuons, et voilà l'appui dont on a besoin. Et ça, je l'ai pris du Burkina d'antan, du FESPACO. Je me rappelle le directeur du FESPACO il y a très longtemps, qui m'a dit quelque chose quand je servais au Burkina. Il dit, Diené, nous, dans notre pays, on commence d'abord. On demande l'aide ensuite. Je trouve ça fabuleux. Et c'est cette chanson, pour moi, c'est l'espoir de notre continent. Et chaque jeune devrait connaître ça par cœur.
Voilà, c'est la petite ordonnance de Diené aujourd'hui. Vous avez une sacrée expérience. Vous aurez compris que je milite un peu pour la compétence des seniors. Non, mais vous avez travaillé quand même près d'Alpha Condé, qui a été accusé de dérive autoritaire. Vous avez, j'imagine, intériorisé pas mal d'événements d'hier et d'aujourd'hui. Peut-être le nom de Sékou Touré à De Gaulle, même si vous n'étiez pas né. La décolonisation, que vous n'avez pas vraiment vécue dans votre chair. L'indépendance, à laquelle vous avez peut-être assisté. La dictature, le panafricanisme, le capitalisme américain, le chaud et froid avec la France. Côté guinéen, plus récemment, le procès du massacre du 28 septembre 2009, je m'aperçois qu'en fait, ma petite liste non exhaustive est très masculine. Est-ce qu'un monde dirigé par les femmes, c'est une idée comme ça qui vous fait rêver?
Oui, je pense que un jour, il faudra bien qu'on y arrive en Afrique vraiment sérieusement.
En Afrique seulement?
Oh, partout dans le monde, mais en Afrique, ce serait très bien, on n'en a pas eu beaucoup. Mmh. Et je pense que ça ferait aussi une différence qu'il y ait plus de femmes dans les gouvernements, ce qui n'est pas le cas. Je pense avoir rencontré Alpha Condé, d'ailleurs, sur mon chemin un jour à l'Assemblée générale des Nations Unies, devant un des bâtiments. J'ai dit « Oh, mon président !» J'ai dit « Bah, je rencontre tous les présidents de la planète, sauf le mien. » J'ai dit « Je peux faire une photo avec vous ?» On a fait une photo. Un an plus tard, j'étais dans le gouvernement. Je ne vois pas le lien, mais en tout cas, ça s'est passé comme ça. Mais j'ai fait 2 ans et quelques mois dans son gouvernement, et je suis partie. À un moment donné, j'ai été le voir parce que j'ai trouvé que c'est un privilège de servir sa nation et qu'un président ait pensé à moi pour pouvoir remplir un petit rôle. Je lui serais infiniment reconnaissante parce qu'il m'a donné ce rôle-là. Et je suis très fière de 2 choses auxquelles j'ai vraiment contribué. L'une, c'est la partie de la Constitution où j'ai intégré le chapitre de l'intégration africaine qui n'existait pas malgré toute l'histoire de la Guinée.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça, rapidement?
L'intégration africaine, tous les chefs d'État en Guinée, à partir de Sékou Touré, c'était vraiment l'Union africaine, l'OUA. On n'avait rien dans notre constitution qui avait un trait avec ça. Rien. Alors là, j'ai fait un texte, quand même, qui nous donne une présence notable. Et la partie sur le capital humain, sur lequel j'ai travaillé. Et le président m'a suivi, même sur les questions de mutilation génitale féminine, parce que j'ai aidé beaucoup mes collègues. Et quand j'ai fait ce que j'ai dû faire, j'ai été le voir, j'ai dit « Monsieur le Président, il est temps pour moi de partir. Je pense vous avoir aidé, mais je n'ai pas envie de démissionner. Je suis du même groupe ethnique que vous. Vous m'avez fait un honneur. Alors, quand vous faites votre nouveau gouvernement, enlevez-moi de votre gouvernement. » Et en fait, il a fait son remaniement du gouvernement avant que je ne parte. Il m'a laissé dedans. J'ai quitté mon pays comme ministre. C'est dans l'avion en haut, je me suis dit « Bon, peut-être que je ne le suis plus maintenant. » Mais pour dire quand même, on avait bâti une relation de respect.
Mais n'êtes-vous pas une exception qui confirme la règle? Est-ce que un monde dirigé par des femmes, les femmes au contact du pouvoir, ne seraient-elles pas elles-mêmes corrompues, abîmées par la pratique du pouvoir?
Oh, je vous rassure tout de suite, il y a de la corruption dans tous les genres. Et voilà. Ça, il n'y a pas de problème. Je pense que
l'éthique... Il y a de l'égalité, là.
Ah, il y a de l'égalité totale. L'intégrité personnelle, je pense que c'est ça la valeur à passer aux jeunes pour que chacun... véritablement essaie de faire son mieux. Et c'est quand même pas se doubler. On fait 2 pas en avant, qu'on recule un peu, ça arrive, nous sommes des humains. Mais on continue à avancer.
Merci infiniment à vous, Denis Keïta, pour cette belle visite en Sol Majeur, émission à retrouver en podcast. Vous êtes très podcast, hein, donc sur votre appli, vous la connaissez par cœur, Pure Radio. Théo Raison, Yasmine Chouaki, nous on vous retrouve la semaine prochaine au bras de Brent Eyes Edwards. Et oui, on sera du côté des États-Unis. Dans un instant, votre journal suivi de tous les cinémas du monde.
Heba, heba. Ma tanda la ma jibi de cham, don ma me ku pota si de. Sumina ma kwen kwen. Hey. Abade wale yu, Sopon City. Pressure. Heba, heba. Mumude, mumude. Mumude, mumude. Onya Afro boy bie. No way I feel papa. Oshie guarantee shoe. Onya rough when you asu kamo. Easy Jamae Botella, Jamae Retailer, Easy Ben Mike Kessa, another Mr. Bumwe.